Bonjour Anna Praz.
Bonjour.
Dans quel état physique et psychologique sont ces populations lorsqu'elles arrivent à Kamako?
C'est un état de détresse. Ils sont confus, ils se posent des questions. Ils ont parfois laissé des membres de famille de l'autre côté et ils ne savent pas vraiment quel est leur avenir. Ensuite, ils se préparent pour partir et pour commencer à marcher des longues heures jusqu'à ce qu'ils arrivent à Kamako et ensuite de Kamako pour partir ailleurs.
Avec quels moyens est-ce qu'ils se déplacent ?
Souvent, ils se déplacent à pied. La majorité des personnes n'ont pas de moyens pour pouvoir louer un vélo ou louer un véhicule ou une moto. Et ils ont beaucoup de membres de famille avec eux, des enfants petits.
Donc ils sont livrés à eux-mêmes en quelque sorte ?
Oui, ils sont seuls dans ce parcours de retour. Il y a des personnes qui sont regroupées dans des sites spontanés, qui essayent de trouver quelques moyens entre eux pour résister quelques jours à Kamako avant de pouvoir partir. Il y en a qui resteront à Kamako, probablement, qui rejoignent leur famille ici. Il y en a aussi qui décident de partir parce que les conditions de vie sont trop difficiles.
Est-ce que les distributions alimentaires ont commencé à Kamako ?
Le CICR ne prévoit pas une distribution de nourriture ou d'aliments, mais on prévoit une réponse de cash. Parce qu'on estime que le cash puisse donner aux personnes le choix de satisfaire les besoins les plus urgents pour eux.
Beaucoup parmi ces Congolais sont coincés ici à Kamako. Ils se plaignent du manque d'assistance qu'ils reçoivent et aussi d'une certaine réticence de la population locale à les aider. Comment expliquer cette situation ?
La population locale à Kamako, c'est une population qui a déjà un degré de vulnérabilité élevé. Cette population avait souffert en 2017 la violence armée dans le Kasaï et au sud du Kasaï. Il y en a parmi eux qui ont dû se déplacer et qui viennent de revenir et retourner à leur maison. Donc c'est des populations qui sont déjà à la base très vulnérables. C'est très difficile pour eux de pouvoir véritablement répondre à tous les besoins que ces personnes présentent.
Donc ce sont des retournés qui se retrouvent à accueillir des expulsés.
On pourrait dire comme ça.
23 personnes sont décédées parmi ces expulsés depuis le début de la crise. De quoi sont-ils morts ?
Beaucoup de ces personnes-là sont décédées, ils arrivaient déjà très affaiblis depuis l'Angola, mais il est clair que les structures de santé à Kamako n'ont pas les ressources pour pouvoir traiter correctement et complètement les milliers de personnes qui sont arrivées d'Angola. Donc il est vraiment capital qu'il y ait une réponse d'appui à ces structures de santé.
Concrètement, dans quelle situation sont ces hôpitaux aujourd'hui ?
Ces hôpitaux sont parfois dans une situation de ne pas avoir assez de lits pour les internés, pour les blessés ou pour le malade. Parfois, les lits qu'ils ont, ils n'ont pas de matelas. Les malades, ils sont allongés par terre, au sol, soit ils sont sur des lits avec une pièce de carton pour pouvoir s'allonger. La Croix-Rouge de la RDC, avec le support du CICR, on a fait une donation de matelas immédiatement parce qu'on a vu que la situation était vraiment critique. Ensuite, aussi, il n'y a pas assez de staff médical comparé au nombre de patients qui arrivent chaque jour pour chercher de l'aide. Il y a vraiment un manque de ressources, d'espace, de moyens, de médicaments pour pouvoir répondre aux besoins actuellement.
Est-ce qu'il y a des risques de maladies, d'épidémies ?
Complètement. Il y a des risques parce que les personnes sont regroupées dans certains sites qui n'ont pas les conditions d'hygiène correctes. Il y a certaines organisations qui sont en train de travailler pour la prévention à ces épidémies. De notre côté, la Croix-Rouge de la RDC est en train de faire des activités d'assainissement pour éviter justement l'explosion de certaines maladies. C'est pour ça que l'eau est capitale. Il faudra installer beaucoup plus de points d'eau, chlorer ces points d'eau. L'eau est à la base de beaucoup de maladies et d'infections. Investir dans l'eau et l'assainissement, ça sera très important.
Le gouvernement a fait une donation d'une vingtaine de cartons de médicaments. C'est dérisoire par rapport aux besoins.
C'est clair qu'il est très important que toutes les parties, les autorités locales ainsi que les acteurs humanitaires puissent appuyer davantage ces structures.
Ça signifie qu'aujourd'hui, l'aide humanitaire, l'assistance humanitaire, un mois après le début de la crise, ne s'est pas encore organisée ?
La réponse a été lente. Un mois après le début de la crise, on a une assistance, je dirais, très partielle par rapport aux besoins qui sont là. Et c'est une assistance qui fait face aussi à beaucoup de défis. Tous les jours, il y a des nouveaux arrivés et tous les jours, il y a des départs. Tous les jours, il y a des départs vers des zones de retour. Et donc des nouveaux besoins aussi dans les zones de retour. Donc c'est extrêmement complexe comme contexte, mais c'est quand même très important de pouvoir répondre avec beaucoup plus d'investissement sur les besoins qui se présentent au moment de l'arrivée de ces personnes et au moment du retour.
Pourquoi est-ce que la réponse a été lente ?
Je pense que ce phénomène a lieu aussi à un moment de l'année qui n'est pas propice peut-être au financement. On est vers la fin de l'année 2018. Beaucoup d'organismes ont aussi clôturé leurs activités.
Est-ce que cette crise est sous-estimée jusqu'à présent ?
On n'entend pas beaucoup parler. Par contre, c'est vrai que les besoins sont énormes. Il y a eu des petites assistances, mais la grande réponse n'a pas encore eu lieu pour les milliers de retournés qui sont arrivés.
Merci.
Merci beaucoup, Florence.